petit mot d'introduction, mais parce que à la parole au dialogue, je suis Christine Bolz. Je fais partie du collectif pour l'éducation par l'art. On est quelques-uns de ce collectif ici. Donc, ce temps de rencontre, bah, merci à celle d'enfance et à Cité, je pense, de nous avoir proposé de tenir ce temps de rencontre à Avignon. Voilà, c'est une période politique, sociale, importante et un temps de mutation, on va dire. Donc il nous semblait intéressant pour le collectif qui existe depuis 5 années, depuis 2012, de saisir ce temps de transition pour à la fois voilà, faire part de ce qui a été en quelques mots sa création, ses modalités d'action, et puis de regarder du coup à l'avenir les années qui viennent, et de partager avec vous, d'entendre aussi voilà, vos expériences, vos attentes, de partager les enjeux de ces questions-là avec vous pour nourrir le travail et le pain sur la planche qu'on a et qui est relativement important. Voilà, donc on va être dans un temps d'échange. On pourrait en être très nombreux, donc on pourrait prendre un peu de temps, peut-être juste un tour rapide des personnes présentes pour donner son nom et peut-être la structure ou le pourquoi on est là, ou ce qu'on représente, parfois plus quand même. Mais voilà, c'est faire ce temps d'échange et puis ensuite on partira sur notre dialogue et nos présentations. Alors du coup, juste je commence, donc Christine Bolz. Moi, je suis sur Lyon et je travaille comme consultante sur les projets d'éducation artistique et culturelle en formation, conseil, études, accompagnement, guidage. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Céline, je travaille à la Fédération de Lyon dans la programmation jeune public et les dispositifs d'éducation artistique et culturelle. Donc, ça m'intéressait de pouvoir échanger et voir ce qui se passe.
Je m'appelle Yolande Trappet et je suis bibliothécaire ici.
Jean-Marc Laurel, je fais aussi partie du collectif d'éducation par l'art et j'ai longtemps servi au ministère de la culture. Je suis à la retraite depuis le 1er septembre.
Voilà. Catherine Tison-Démat, d'un point de vue associatif, je fais partie de l'ANRAT, l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale. Donc, l'ANRAT étant représentée par Marie, sa directrice au collectif. Voilà. Et professionnellement, je travaille à l'OCCE, qui est l'Office central de la coopération à l'école, où je coordonne les actions art culture, une action assez importante en faveur de la rencontre des enfants à l'école et des écritures théâtrales jeunesse qui s'appelle TA, en partenariat avec les compagnies, les théâtres et les auteurs, bien sûr. Une autre action en danse qui s'appelle Bals en Liance, danse à vivre et à partager. Et en partenariat avec le Printemps des Poètes, une action école en poésie. Voilà, quelques années.
Moi je m'appelle Joël Roux, je suis instituteur depuis longtemps à la retraite, ancien membre du groupe théâtre.
Membre honorifique.
Le CCE national. Et voilà, et maintenant je m'occupe d'une petite fédération de théâtre amateur en Lot-et-Garonne qui travaille pour les ados et les adultes en étroite collaboration avec le CCE local.
Alors moi, je suis Monique Pinguet, donc je suis aussi enseignante retraitée et je coordonne dans le département le projet TA porté par le CCE, donc les scolaires qui découvrent les univers des théâtres des auteurs contemporains. Donc on fédère entre 30 et 40 classes tous les ans qui découvrent les auteurs du théâtre contemporain en lien avec la programmation du territoire. Et ensuite, je coordonne également le projet Bal Alliance, dont Catherine a parlé précédemment, qui regroupe une dizaine de classes à un projet pour les enfants.
Catherine Chaumont, je suis enseignante spécialisée et comédienne amateur. Voilà, ayant participé à plusieurs projets théâtre jeune public, voilà, en tant que comédienne.
Catherine Lacote, je suis
anciennement maître de conférence dans cette université, et je m'occupe avec d'autres qui sont ici, de ce réseau qu'on a créé en Vaucluse, qui s'appelle REV, Réseau Vauclusien pour l'éducation au spectacle vivant, et qui a pris la suite d'une recherche-action dans laquelle M. Lorraine est intervenu, qui s'est tenue dans ce département de 2014 à 2016.
Bonjour, moi je m'appelle Séverine Gros. Alors, je suis plutôt médiatrice culturelle. Je ne suis pas en poste aujourd'hui, mais ma dernière activité était à la Maison Jeanvelin, comme responsable de l'action culturelle. Je reconnais certains d'entre vous, c'est dans cette maison à plusieurs reprises. J'ai repris mes études et je suis à un master de direction de projet culturel à l'Observatoire. Et je m'intéresse notamment, dans le cadre de mon mémoire, à l'éducation artistique et culturelle, et plus précisément à la relation qui se joue, ce qui se joue entre les artistes et les enseignants en danse, plus spécifiquement dans le champ de la danse.
Nadine Fiorda, je suis administratrice d'une compagnie qui s'appelle Living Fingers. On met des actions depuis une quinzaine d'années, spectacle musical et donc médiation culturelle dans les villes ou enfin suivant nos projets et les partenariats qu'on arrive à trouver. Et là, on est en développement d'un projet avec des enfants handicapés et voilà pourquoi je suis ici également. Et bien d'autres, c'est plutôt le monde et plutôt musique. Donc je trouve qu'il y a jamais beaucoup de choses qui sont dites sur le jeune public et la musique.
Bonjour, je m'appelle Sandrine Froissart, je suis professeure au lycée Gaston Phébus à Orthès dans les Pyrénées-Atlantiques, professeure en option de spécialité théâtre, professeure relais théâtre dans les Pyrénées-Atlantiques et formatrice pour l'école du spectateur. Et sur le plan associatif, je suis adhérente à l'ANRA, TEA, Théâtre Éducation Aquitaine.
Bonjour, je suis Pauline Duquesne, je suis chargée des projets et des territoires au sein de l'association Scènes d'enfance à Citège France et je m'occupe en particulier du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse et pour la partie territoire, on va dire de la mise en valeur, l'accompagnement des dynamiques territoriales avec Estelle, notre coordinatrice.
Bonjour, donc Sophie Cardassay, donc je travaille à la centre conventionnée d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, je suis chargée de préparation du public et de la mise en place d'un contrat local d'éducation artistique.
Je suis Philippe Andrieux, je suis responsable de l'atelier des photos et des mots dans la région centre. Donc, je m'occupe de l'éducation par la photographie pour toutes sortes de publics, depuis les plus jeunes jusqu'aux adultes, les handicapés, les gens détenus et des choses comme ça.
Bonjour, je suis Simon Dussard, la compagnie Dans l'Arbre. On est une compagnie qui est implantée à Lille. On travaille énormément en action culturelle. C'était l'occasion de discuter un petit peu de tout ça ensemble. Et on est aussi membre du collectif Jeune Public des Hauts-de-France.
Bonjour, Alexandra Bouclier-Assani. Je suis chargée d'action culturelle à la Manivelle Théâtre, compagnie professionnelle avec lieu basé à Ouascal, dans l'agglomération lilloise. Nous sommes aussi membres du collectif Hauts-de-France et nous sommes le pôle ressources de ce collectif à la même veine.
Donc moi je m'appelle Pauline Blanquer et je co-dirige avec Simon la compagnie.
Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis drogué au jeune public depuis 35 ans. Ça va vachement bien. Mais sinon, mon nom, puisque maintenant il faut titulaire un ami, Didier Lecoq, je suis directeur de la scène nationale La Garance à Cavaillon, très investi dans le jeune public depuis le début, avec et donc membre de la plateforme Génération de Saison PACA, Océan National de Scène France à Citège, et membre du réseau REV, très actif, pour essayer de comprendre et de bousculer les habitudes, mais surtout de comprendre, alors que c'est une priorité nationale, pourquoi on attend de mal à mettre en place une vraie politique générale autour de l'éducation, ou la sensibilisation, ou l'immersion, suivant les gens qui s'expriment au spectacle vivant et à l'éducation artistique en général.
Bonjour, Jean-Pierre Daniel, qui fait partie du collectif Éducation par l'art. Moi j'ai un itinéraire un peu différent de vous, je viens du cinéma, j'ai fait après des études techniques à l'IDEAC dans les années 60, qui est devenu la famille depuis. J'ai choisi, on m'a proposé de faire un travail dans l'éducation populaire et j'ai été longtemps conseiller technique du ministère de la Jeunesse et Sport pour le cinéma. Et ce qui m'a permis de revenir dans ma ville dès le début. J'ai donc travaillé toute mon histoire à Marseille, où j'ai, comme ça, développé un certain nombre d'actions et de réalisations. Et par rapport aussi, j'ai été longtemps président de l'association des enfants de cinéma qui coordonne en France le dispositif École Cinéma.
Donc moi, je suis Estelle Derken, la coordinatrice de l'association. Je vais présenter tout à l'heure.
Geneviève Lefort, je suis vice-présidente de l'association Scène d'enfance à Cité-Ège France et déléguée au projet dont Estelle a parlé tout à l'heure, à savoir donc Avignon Enfants à l'honneur. Et puis le 1er juin, je pourrais dire comme toi que je suis droguée à mort et à vie surtout. Du jeune public, de la jeunesse. J'ai commencé dans l'éducation nationale, j'ai poursuivi comme directrice d'un équipement scène régionale pour la jeunesse. Et aujourd'hui, ce qui peut être, et je suis membre de notre collectif pour les HAC, et je pense que voilà, c'est tout ça ensemble qui ne cesse de me questionner, et peut-être encore plus précisément à l'endroit de la parole adressée à la jeunesse, qu'elle soit à travers les textes, qu'elle soit sur la scène.
Jean-Claude Lamillas, je suis membre du collectif, je suis enseignant, retraité, très actif. Et je continue encore officiellement à m'occuper de tout ce qui est la documentation pédagogique en matière de théâtre pour l'ancien réseau du CNPP, qui s'appelle aujourd'hui CANOPE. Et je suis membre de l'ONRAP et on a parlé de l'engagement. Théâtre jeune public, mais je suis vraiment engagé sur la question de la place du théâtre à l'intérieur même de l'éducation nationale. Ça vous a fait rester.
Bonjour, je suis Audrey Jardin, chargée de diffusion au sein du bureau de diffusion Mitiki. Donc on accompagne principalement des compagnies de danse contemporaine. Et au sein de ce bureau-là, au-delà de la diffusion, je m'occupe de la mise en place pratique des actions culturelles des compagnies Arcosme et la Bouivre. Et voilà, je trouvais que c'était l'occasion de peut-être prendre un peu de recul par rapport à la gestion quotidienne des projets d'action culturelle, de pouvoir se rencontrer dans Paris.
Bonjour à tous, avant tout, excusez-moi d'être affairé, comme vous l'avez remarqué, et je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas entendus, mais je vais être très attentif à ce que vous direz après. Je suis en train de régler un petit problème avec ma tutelle, donc pardonnez-moi, je suis obligé de répondre au téléphone, ça peut même se reproduire. Donc je suis Robin Renucci, vous dire que j'ai été touché par la grâce du partenariat entre enseignants et artistes quand j'avais 3 ans. Donc ça a en fait modifié mon parcours. Je suis devenu professionnel du spectacle vivant, du théâtre, vous le savez, d'autres mode d'expression symbolique de l'image, mais je suis aujourd'hui toujours comédien, je suis directeur d'un centre dramatique national qui s'appelle les Tréteaux de France, c'est-à-dire une mission d'itinérance à la rencontre des publics de toute la France. Je suis président depuis 20 ans d'une association qui s'appelle l'ARIA en Corse, toujours à l'endroit précis du partenariat enseignant amateurs, exigeants, comme nous sommes les amateurs et professionnels du spectacle vivant, notamment du théâtre, une aventure qui existe depuis 20 ans, on va en reparler, qui en ce moment même vient de commencer avec 150 personnes qui sont en train de se réunir, enseignants, amateurs, professionnels du spectacle vivant, éducateurs, toute la chaîne de l'éducation. Et puis j'ai la possibilité aussi de pouvoir échanger au plus près de nos tutelles, parce que je suis membre du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, qui réunit les deux ministères, culture et éducation nationale, et membre de notre association donc, pour l'éducation par l'art. Ce que nous prenons, c'est une éducation par l'expérience et la pratique de l'enfant. C'est un peu différent de l'éducation à l'art, tout en n'étant pas opposé du tout à cette éducation à l'art.
Marie.
Marie-Hélène Desmarines, j'ai ravi de prendre la parole après vous. Je vous ai écouté hier après-midi, vous avez eu la pensée, et vous rappeliez justement l'importance de l'éducation populaire de notre parcours. Donc, Marie-Hélène Desmarines, danseuse chorégraphe à Aix-en-Provence, et je suis justement issue de l'éducation populaire. Et mon parcours a fait que je croise beaucoup tout ce qui est en action éducation artistique et culturelle, puisque moi j'ai quand même bénéficié de tout ce travail. Et dans mon travail de chorégraphe, j'associe régulièrement, je suis personne ressource dans salle école, donc j'ai fait partie de ces formations croisées des ministères avec Martial Bonjour, et je développe donc régulièrement un travail de danse partagée et croisée. Je fais partie de nombreux collectifs, dont l'appel saison jeune public en région PACA, et un collectif plus pointu sur Aix et le pays d'Aix, qui s'appelle Par les villages, qui pose les questions de la création et des rencontres avec les élus, les diffuseurs, les programmateurs et les artistes de la question jeune.
Et Sophie, Marie-Lucille,
monsieur là-bas.
Monsieur là-bas, il ne faut pas se présenter. Présentez-vous.
Alors, on est toutes les deux membres de la DRAT. Voilà, moi je m'appelle Marie-Lucille Mignot. Je suis ancien professeur de lettres, ancien IAIPR de lettres, chercheur de ce théâtre. Je suis à la presse. Et je suis un spectateur public, soutien évidemment du théâtre public depuis toujours. Voilà. Et évidemment, j'ai eu beaucoup à travailler sur le parcours artistique et culturel avec le DAC des académies où j'ai travaillé. Voilà.
Anne-Sophie Roulant, je suis aussi membre du CA d'Amrat, directrice d'école et boulimie de théâtre aussi, et du coup accompagnatrice aussi de projets de création de théâtre.
Monsieur, vous voulez vous présenter?
Non, ah ben, je suis Claude Lacote, le mari de Jacqueline Lacote ici. J'ai longtemps exercé dans cette maison de la charge d'un département culture et communication. Et maintenant, mon action se situe essentiellement au plan conjugal. Nous évoquons très souvent des problèmes. Voilà, donc ça tient une part très importante dans la vie.
Je suis François Preget, je m'occupe de la communication et de l'international, c'est une importance.
Ok, bon,
on va
bien, on riche tous. Directrice de l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale et membre du collectif depuis 2 ans. Voilà, donc merci.
Je vous demande quand vous internet parlez fort parce qu'on enregistre, donc c'est juste lever un tout petit peu la voix.
D'accord. Et peut-être dire son nom sur qui prendra la parole, ça, bon, ça sera mieux. Donc c'est enregistré, il y aura un compte-rendu qui sera fait de notre rencontre. Voilà, avant de nous lancer, donc l'idée c'est bien de nous lancer dans le vif du sujet de l'éducation artistique et culturelle et maintenant, tel que voilà, tel est le titre qu'on a souhaité donner à cette rencontre. Mais peut-être pour la précéder, permettre à ceux d'entre vous qui ne repèrent pas tout à fait ce qu'est ce collectif pour l'éducation par l'art, Jean-Pierre, si tu veux bien nous en faire un petit historique rapide et pointer les quelques actions, enfin les contenus des actions.
Bon, sous la responsabilité des autres, regarde en partie Jean-Claude qui était au tout début aussi de cette aventure. Moi, le souvenir que j'ai, c'est en septembre 2012, au moment où se mettait en place le nouveau gouvernement Hollande, et avec l'idée que la question de l'éducation artistique allait devenir une priorité. C'est un discours qu'on a déjà entendu. À ce moment-là, est sortie une tribune, je crois que c'est dans Libération, une tribune signée dans mon nom en particulier par Patrice Chéreau et Alain René. Ça avait été présenté de Paul, c'est ça qui m'avait fait sursauter. et où l'avez-vous développé l'idée que ce qui était important pour développer l'éducation artistique, c'était de développer l'histoire des arts et d'aller vers un capes de l'histoire des arts. Et un certain nombre à rebondir, à réagir, à se dire c'est pas forcément la piste qu'il faut. Et moi, je me suis associé à la réaction en particulier de Philippe Mérieux, que j'ai rencontré aux rencontres d'art à ce moment-là. Il m'a fait part de cette tribune que je n'avais pas repérée, et qui a proposé, il y avait un texte qui était en élaboration, qui circulait entre un certain nombre de personnes, je crois que Jean-Claude en faisait partie, Jean-Laurien Carasseau, Emmanuel Bavon, Marie-Christine Bordeaux, pour inciter eux. Et ce texte était une volonté d'une autre prise de parole, qui est effectivement paru dans l'idée. Alors là, je crois que c'est un manifeste qui est paru dans l'idée. Et ce texte, il faut y le retrouver, bien sûr. Il prenait le contre-pied de ce premier texte et il a été popularisé et à peu près 1 000 000 de personnes qui l'ont signé. Et c'est un petit peu ce mouvement qui a donné un élan à ce premier groupe qui s'était coopté, qui s'est petit à petit défini comme un collectif de l'éducation artistique par l'art, qui a fondé, grâce à Jean-Gabriel Carasso, un site, un blog qui existe et sur lequel on peut aller repérer un peu les étapes après les 4 années qu'on vient de vivre en restant ensemble, en faisant circuler l'information. Et donc on est un peu une espèce de groupe comme ça qui sont un tas de veilles, un tas de recherches, une sorte de qui ont joué des rôles, certains d'entre nous ont joué des rôles directement. Robert est maintenant membre du Haut Conseil, Marie-Christine Bordeaux aussi. Et peut-être simplement vous dire ceux qui veulent voir un peu les traces de ce travail-là. Le blog là, de l'éducation par l'art est un endroit où vous pourriez retrouver en particulier des enregistrements qui ont été faits au cours de certains des moments de ces 4 années vécues, en particulier une grande réunion qui s'est faite au Sénat où il y a eu une prise de parole en présence de 2 ministres, Aurélie Philippetti d'un côté et Marcel Attey de l'autre côté, les situent parce qu'ils étaient de part et d'autre de la scène et qu'ils ne se regardaient pas forcément très amicalement tous les deux. Et donc voilà, c'est un petit souvenir, mais en tous les cas, là, il y a eu des prises de parole et des enregistrements qui sont importants, il me semble. Il y a eu aussi un enregistrement qui a été fait parce que Robin a eu une prise de parole extrêmement forte un jour au Conseil économique et social, qui a été enregistrée par Jean-Gabriel Carval, qui est aussi sur le site, et qui aussi pose, à mon avis, en la réécoutant, un peu toutes les positions qu'on a un peu travaillées entre nous, défendues entre nous. Moi, je me rappelle ces deux-là, mais il y a eu aussi un grand rassemblement à Lyon, à l'ENSA, où aussi, là, il y a eu des échanges alors, avec un public assez important. Et donc, ce groupe-là, qui s'est petit à petit, enfin, qui a par cooptation, a grossi sans avoir envie de devenir une espèce de machine institutionnelle, mais se retrouve à continuer à exister. Si vous faites des pages, des mails quand on les met les uns derrière les autres, on est certain d'entre nous veulent le faire. Moi, je crois que j'en suis à 150 pages à peu près de non-circulation, de veille, de veille. Il y a cet article à regarder, on va voir ça, etc. Et le site, le blog de Jean-Gabriel est à mon avis un bel endroit pour repérer ce qui s'est passé. La question qu'on se dit et qu'on rejoint aujourd'hui, c'est qu'ensemble, on se dit qu'aujourd'hui, on est peut-être de nouveau au même point et peut-être même dans une situation plus inquiétante encore et qu'on n'a pas l'impression qu'on est plus légitime à continuer. Et donc la question de comment continuer, entre nous, on a un débat, on n'a pas encore établi exactement les pistes. En tous les cas, cette rencontre fait partie des endroits où on a envie de se dire, échangeons et regardons vers quoi il faut aller pour continuer à cette
bataille
ou cette action. Je ne sais pas si ça fait le tour des choses, Jean-Claude.
Oui, tout à fait.
C'est une première.
Peut-être juste rajouter une chose, le collectif a eu une action très directe sur l'Assemblée nationale, via quelques députés, pour faire vraiment inscrire dans une préoccupation que les parcours d'éducation artistique soient vraiment légitimés et surtout qu'ils soient évalués, fassent vraiment partie intégrante de la réussite scolaire. Une fois que c'est dit, ça reste à faire.
Vous savez, dans la question du comment continuer, il y a
qu'est-ce que nous désirons continuer. C'est peut-être sur ça qu'on peut aussi continuer à avancer là ensemble ce matin.
Oui, c'est qu'est-ce qu'on a, bon, on vient de passer, bon, l'éducation artistique et culturelle, globalement, elle monte en puissance depuis un certain nombre d'années, hein, ça ne date pas du mandat de la présidence de François Hollande, hein, déjà sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'éducation artistique et culturelle faisait partie des priorités des deux ministres éducation et culture, c'est la période mise en place de l'histoire des arts, voilà. Donc chaque, bien sûr, chaque gouvernement, chaque couleur politique a sa manière d'appréhender l'éducation artistique et culturelle, hein, il y a des spécificités, et voilà, mais c'est du coup, hein, c'est une question qui est croissante, qui est de plus en plus présente, et effectivement, on voit déjà avec les deux ministères, nos deux ministres, hein, Jean-Michel Blanquer et Françoise Nyssen, que déjà en 2 mois, il y a eu un certain nombre d'annonces et de propos tenus pour l'éducation artistique et culturelle. Alors après, comment, qu'est-ce qu'on peut tirer, penser, comment on analyse les propositions qui sont déjà arrivées, la rentrée en musique, le travail autour de la lecture et du livre dans les bibliothèques, voilà, les premiers choix qui sont faits, les premières annonces, on n'en est qu'au début, hein, il n'y a pas encore de plan, mais voilà, on peut déjà évoquer ça, voilà. Partir de ce qui a été posé ces 5 dernières années, la question du parcours, l'éducation artistique et culturelle, la réflexion autour des rythmes éducatifs et la circulaire de fin juin qui annonce déjà une possibilité de faire une marche arrière sur les rythmes éducatifs, en tous les cas une liberté donnée aux collectivités territoriales de revenir sur la semaine de 9 demi-journées, de repasser à 8 demi-journées. Voilà, enfin, vous êtes au courant comme moi, vous avez vu passer ça dans la presse, ces transformations. Donc, voilà, on ouvre la discussion là-dessus. Si, voilà.
Bon, je vais dire de façon le plus synthétique possible. Moi, ce qui me semble aujourd'hui, 3 enjeux principaux. Alors, je vais commencer par... c'est plutôt un message à faire passer à l'extérieur, d'ailleurs, de notre assemblée, c'est la question budgétaire. Enfin, je vais l'aborder rapidement, mais les crédits consacrés, pour ce qui concerne le ministère de la Culture, hein, les crédits consacrés à l'éducation artistique avaient baissé pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ils ont effectivement augmenté pendant le dernier quinquennat, mais à l'intérieur, par redéploiement, à l'intérieur d'une enveloppe globale, permettant de financer l'éducation artistique, la politique du public et l'enseignement spécialisé qui, elle, a subi une baisse importante. Et une baisse plus rapide, plus importante que la baisse globale du budget du ministère de la Culture pendant ces 5 années. Je ne vais pas vous inonder de chiffres. Ces chiffres, je les ai là, je peux tout à fait l'étayer sur des données extrêmement précises. Ce qui signifie donc que ça n'a pas été la priorité, parce que si ça avait été la priorité, on aurait pu considérer que, bon, bien sûr, il y avait des efforts budgétaires à fournir, donc le budget du ministère, il est contraint, etc., mais qu'au moins la baisse de ce budget-là soit plus faible que la baisse globale du ministère de la Culture. Donc ça signifie que, encore une fois, à l'intérieur même du ministère de la Culture, la priorité a été donnée à d'autres thématiques que l'éducation artistique et culturelle et plus généralement la politique des publics. Ça, c'est la première remarque. Ça conduit en particulier aujourd'hui le bilan, vous savez, ce qu'on appelle le rapport annuel de performance. Excusez-moi, le terme est un peu technique, mais vous savez, le bilan que chaque ministère doit adresser au Parlement chaque année sur l'année antérieure. On appelle ça, en jargon, des rapports annuels de performance. Ce sont des documents qui sont publics, puisqu'ils sont en ligne sur le site performancepublique.gouv.fr, le signal. Voilà. Le bilan de l'année 2016 annonce comme chiffre, comme dépense par enfant bénéficiaire sur les crédits d'intervention directe du ministère de la Culture, le chiffre de 6 euros par élève. 6 euros par élève, autant acheter une boîte de crayons de couleur à tous les enfants de France et de Navarre et le problème sera réglé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 6 euros par élève? Donc ça pose effectivement la question maintenant des enjeux de fond. De fond. Il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est absolument nécessaire de rappeler que l'éducation artistique, elle repose sur les trois axes bien connus. La relation avec les œuvres, l'initiation à une pratique artistique co-animée par les enseignants et les artistes, et puis la dimension à proprement parler culturelle de l'éducation artistique, qui est notamment l'histoire des arts, qui est la contextualisation, etc., etc. Moi, ma crainte, c'est que, puisqu'on annonce comme objectif, sans moyens budgétaires, parvenir à la fin du quinquennat à ce que la totalité des enfants scolarisés bénéficient d'une éducation artistique, ma crainte c'est que le paquet soit mis exclusivement sur l'enseignement de l'histoire des arts, sur les enseignements, c'est-à-dire au détriment de l'intervention de partenaires extérieurs à l'école. Ça c'est ma crainte. Alors maintenant, moi je suis très heureux que la question de la relation artiste-enseignant ait été abordée et fasse l'objet de toutes mes recherches, parce que effectivement, moi je trouve que c'est le nœud aujourd'hui des questions qui nous sont posées. On aborde la question de l'éducation artistique toujours en se posant la question de la généralisation. Mais il me semble que il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je crois que on a trop longtemps mis l'accent sur le caractère irréductible de la contribution que les artistes peuvent apporter dans la relation avec un enseignant à des projets d'éducation artistique. On a beaucoup insisté sur le fait qu'un enseignant, quelle que soit la qualité de sa formation, de toute façon aura toujours besoin d'un artiste à côté de lui pour pouvoir initier les enfants à une pratique artistique, mener des projets artistiques. C'est vrai. Je pense que c'est. On a eu raison de le dire. On a eu raison de le dire. Mais on a complètement occulté ce qui se passe dans la relation entre artiste et enseignant en termes de. Alors, je ne sais pas si ce terme est adéquat, mais en termes de transfert de compétences. Il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas innocent quand un enseignant travaille avec un artiste au fil des mois, au fil des années, il en est transformé. Il en est transformé. L'artiste aussi, lui-même, d'ailleurs, j'imagine, est transformé par les relations de partenariat. Mais on a tellement voulu insister sur le fait que, de toute façon, leurs métiers n'ont strictement rien à voir qu'on a mis sous le poisson cette question-là, qui me semble être la question fondamentale, parce que c'est là où se situe l'enjeu de la généralisation. On le sait, il n'y aura jamais suffisamment d'artistes pour que chaque enseignant puisse avoir dans sa classe un artiste pour mener à bien des projets. Donc à un moment donné, il faut que ça circule, il faut que les artistes soient plutôt présents, associés à des établissements scolaires ou à des bassins scolaires, plutôt qu'associés à un enseignant dans une relation individuelle, interindividuelle, qui va durer sur plusieurs années. Il faut que les artistes puissent circuler, que ce soit l'ensemble de la communauté scolaire qui, à un moment donné, puisse bénéficier de la présence de ces artistes. Et pour ça, ça suppose, et je terminerai par là, ça suppose évidemment qu'on travaille sur l'accompagnement de cette relation artiste-enseignant, notamment en termes de formation. En termes de formation. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de formation conjointe. Il n'y a plus du tout de formation conjointe. L'époque bénie des universités d'été, elle s'est arrêtée en 2002, je crois. 2002-2003. Ça fait donc plus de 10 ans, hein, nettement plus de 10 ans. Bon, ça, c'est un enjeu fondamental sur le plan national, mais aussi dans chaque académie, et je dirais même dans chaque circonscription. Alors ça pose évidemment, alors si on commence à décliner, je vais m'arrêter là, ça pose aussi le rôle dans le premier degré, la question du rôle des conseillers pédagogiques. Il y en a de moins en moins de conseillers pédagogiques spécialisés. Alors, bon, il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème. Donc, je voulais peut-être lancer le débat sur cette question de la formation qui me semble vraiment la question essentielle.
Ce que j'ajouterais à ce que tu viens de dire, c'est la relation à l'œuvre. Parce que là, tu parles de la relation des artistes avec. Moi, je poserais la question de la création
et de la relation effectivement à l'œuvre vivante. Voilà. C'est tout.
Juste pour prolonger ce que disait Jean-Marc à propos de cette question de la transmission et donc du fait qu'il n'y aura jamais assez d'artistes si on rêvait de nourrir toutes les classes, etc. En 2001, et Robin pourra témoigner aussi de son côté, je pense, il y a eu des petites expériences de fait, valorisées et évaluées, dans quelques villes, petites villes, par du temps, où on avait mis en place des sortes d'ateliers au sens de la Renaissance, c'est-à-dire un artiste qui travaille avec une dizaine, une quinzaine d'enseignants, les enseignants devenant autonomes ensuite pour évidemment faire un minimum de pratique dans leur classe, sans l'intervention obligée et directe et immédiate en tout temps. Par contre, toutes ces classes travaillaient évidemment en relation avec ce lieu culturel, pour que les enfants voient le spectacle, sont en relation avec des artistes et avec des œuvres. Ce modèle de l'atelier Renaissance, je ne comprends même pas, moi aujourd'hui, qu'on l'ait abandonné. C'était le foyer du Renouveau, et encore une fois, le plan Langue Tasca avait prévu une implantation. Après, ça s'est très vite, évidemment, dégradé dès 2003, au départ de Langue Tasca, mais on avait mis en place une dizaine, pour le théâtre, une dizaine de lieux comme ça. Et ça a été, enfin, le bilan était tout à fait positif. Ça concernait école et collège, hein, pas les lycées qui relevaient de l'enseignement, pour lesquels il y avait des formations conjointes, nationales, tout ça. Mais je vais juste refaire ma parenthèse, ça a été complètement cassé à partir de ça. Mais par contre, Robin peut témoigner de toute l'action de l'ARIA, c'est un exemple absolu de ça, qui pourrait se généraliser, enfin, en tout cas qui pourrait redonner des foyers de formation à transmettre, avec effectivement des artistes qui sont non pas des maîtres qui transmettent et qui s'en vont, mais qui ont des alliés. Enseignants qui peuvent, dans leur classe, commencer à faire un certain nombre de travaux pour préparer des rencontres. Mais et travailler sur les œuvres.
J'ai un peu, comme tu sais, tout dépend de l'éducation nationale.
Oui, c'est sûr.
Les lieux de formation, on les connaît, ils existent. Ce sont les lieux de formation des maîtres, et quelle que soit leur appellation. Ce sur quoi on a essayé de travailler, excusez-moi, Pascal Collin. Le membre du groupe pour l'éducation par l'art, et donc avec Jean-Claude, Robin, Geneviève, Marie, Christine, et auteur de l'urgence de l'art à l'école, précisément. Et donc, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur la précédente mandature, excusez-moi, il y a des choses déjà qui recoupent ce que je vais dire, mais c'est précisément sur la formation des formateurs. C'est là qu'on a dit que c'était vraiment un axe majeur de la réussite, mais véritable, sinon d'un plan, du moins d'un mouvement en faveur de l'éducation artistique au cœur des corps de l'école. Et c'est cela qu'on a pas réussi à mettre en place parce qu'on n'en conçoit pas nécessairement les modalités, les précises et concrètes. Moi, j'avais un exemple, je ne vais pas être trop long, mais on m'avait invité, Marie était présente, donc aux assises des DAC, donc des directeurs, etc., telle collectivité d'action publique. Et ce qui était très frappant, c'était qu'ils étaient tous prêts, effectivement, à participer, en soi, à un mouvement de progrès, de généralisation de l'éducation artistique. Et culturelle, l'éducation artistique au sein de l'école. Mais ce qui était très frappant, c'est que dès qu'on passait aux modalités, pour eux, une visite de musée, c'est une pratique d'éducation artistique et culturelle. Du moment qu'elle a été préparée en amont et que le médiateur fait son travail. Et quand j'ai voulu préciser avec eux, et c'était de façon très sympathique, que ce n'était pas ça l'éducation artistique et culturelle, et qu'elle a été finalement aussi redéfinie et définie, et grâce à nous tous, définie en fait par le législateur, parce qu'elle nous a appuyé sur les trois piliers que nous connaissons, avec la pratique en particulier, que l'action culturelle ne comprend pas, comprend rarement, ne comprend jamais. Donc, et bien là, quand il s'agissait de ça, tout d'un coup, j'ai été ce que je disais de même au moment très clivant, disait-il, parce que j'enlevais de l'éducation artistique, j'ôtais de l'éducation artistique et culturelle la majeure partie des actions des DAC.
Vous êtes sûr que vous comprenez. Parce que la majeure partie des actions n'étaient plus d'éducation. Telle que je la définissais, ils ne pouvaient plus se targuer de faire de l'éducation artistique. Et précisément parce qu'il faudrait que dans l'éducation nationale, que les lieux de formation des maîtres soient aussi des lieux de rencontre entre médiateurs culturels, enseignants et artistes, de telle sorte que, de telle sorte qu'ils puissent apprendre ensemble à constituer des projets. Car seuls les projets, donc ils réunissent les trois dimensions, rencontre avec les artistes, acquis de connaissances et donc les projets d'analyse, et puis pratique, seuls les projets peuvent permettre précisément de constituer ces fameux parcours d'éducation artistique qui sont maintenant dans la loi également de fondation de l'école. Et donc, nous, on n'a pas beaucoup obtenu, mais on pouvait au moins espérer, sous la présente mandature, qu'on définisse une méthodologie de la rencontre et du travail dans la formation des maîtres. Ça n'a pas été fait.
Il y avait une prise de parole ici.
C'était pas une question, c'est pour compléter ce que vous êtes en train de dire, justement, sur cette chose de la formation. Pardonnez-moi, parce que je suis sûrement très ignorante par rapport à vous, mais je me suis intéressée aux préacs, qui sont, si vous devez le savoir, des pôles de ressources pour l'éducation artistique et culturelle, et qui sont, à ma connaissance, justement, le seul lieu où se rencontrent l'éducation nationale, le monde de la culture, et dans le monde de la culture, les artistes et les médiateurs, autour d'un projet d'un artiste, dans différents domaines, donc je ne suis plus intéressée à celui de la danse, mais... Et cette chose-là, je la trouve vraiment super intéressante. Et je ne sais pas du tout comment, mais il me semble aussi que c'est le nœud, que c'est le cœur de la chose. Et je me demande comment cette chose-là peut être développée plus. Là aussi, il y a une question de moyens, hein, de toute façon. C'est évident, mais c'est quand même un lieu, ne serait-ce que humain, de rencontre des mondes, des langages, et où on apprend à se connaître et à comprendre chacun ses enjeux, ses difficultés, qui me semble assez passionnant, enfin, en tout cas intéressant.
Moi, je veux bien réagir juste à ça pour dire qu'effectivement, les questions que vous posez, ou la manière de travailler, de mêler les publics, enseignants, animateurs, éducateurs, artistes, médiateurs culturels, est importante. Elle se fait au sein des préacs ou de certains préacs. Hein. Les préacs sont aussi inégaux, plus ou moins actifs, etc. Assez souvent, la plupart du temps, orientés sur une entrée artistique un peu spécifique, donc ce qui donne encore une originalité, pourquoi pas. Mais voilà, il y a ces lieux-là, mais il y a aussi encore pas mal d'associations départementales qui organisent aussi des temps de rencontre et aujourd'hui d'associations, enfin pas d'associations mais de médiateurs qui travaillent sur l'intercommunalité, au niveau des intercommunalités, qui commencent à organiser ces temps de rencontre professionnels de partage et qui sont intéressants parce qu'effectivement ce partage de l'expérience, c'est le partage du questionnement, le partage des insatisfactions, le partage des bonnes idées, le partage des trouvailles des uns et des autres, et c'est vraiment quelque chose qui fait avancer largement. Mais il me semble que la question qui est posée dans la formation, c'est aussi au sein des ESPE, hein, des ex-IUFM, là dans un lieu plus institutionnel, plus traditionnel, mais on passe tous les futurs enseignants, comment ouvrir ces lieux-là. C'est-à-dire ce modèle qu'on voit par ailleurs qui est issu du monde professionnel, comment est-ce qu'il pourrait intégrer peut-être les ESPE de manière beaucoup plus vive qu'il ne le fait aujourd'hui.
Moi j'ai presque envie de pousser un coup de gueule là ce matin, simplement. Parce qu'il ne faut pas être si triste que ça, je crois. Il y a des moyens énormes en France, on est riche, vraiment, on est riche. Et pourtant, je suis directeur du Conseil national, qui est l'un des plus petits budgets de France, on arrive à faire à peu près un tiers du budget sur l'éducation artistique, sur le jeune public, la création jeune public, sur les 7 artistes compagnons, on en a 5 qui sont en jeune public, et qui sont en création sur les territoires. Et j'ai plein de collègues qui font ça. Et j'ai démarré il y a 25 ans maintenant à Vitry-François, 87% des enfants à l'époque, entre 94 et le moment où je suis parti, étaient dans des processus de sensibilisation, d'immersion, d'éducation artistique avec des équipes, une équipe de cirque en résidence dans un collège, des artistes qui travaillent dans les établissements. Et j'ai été auditionné dans les années 2000 par le Conseil de l'éducation artistique. Le coup de gueule que je me pose moi aujourd'hui, c'est qu'en fait il y a des pratiques. Il y a une accumulation énorme de bonnes pratiques ou de regards critiques. Mais en fait, tout ça, on ne sait pas du tout ce que ça devient. On n'utilise pas ça, on n'utilise pas cette matière qui est produite horizontalement par les gens, par les artistes. On a mené une recherche-action effectivement sur le Vaucluse, moi c'est mon dada que je fais ce boulot-là en me disant je viens des milieux ouvriers et un peu comme Robin le disait tout à l'heure, c'est parce qu'un prof a emmené ma classe en quatrième qui fait que j'ai eu un contact pour la première fois de ma vie avec une œuvre d'art. Voilà. Et dans la profession, il y a plein de gens qui ont vécu ça. Je suis pratiquement certain que si on fait le tour autour de la table, autour de l'assemblée là, il va y avoir 90% des bras qui vont se lever. Voilà. Sauf que tous ces savoir-faire, toutes ces expériences, elles se diluent comme ça, elles restent où elles vivent. Et par contre, ça ne permet pas de traiter les zones blanches, comme on dit maintenant. Voilà. Et je trouve qu'il y a une déperdition énorme et on ne fait pas surtout assez confiance à l'horizontalité, le savoir-faire, le partage, le partenariat. Voilà. C'est énorme. C'est-à-dire que pour moi, une chose qu'on a pu repérer, nous, en tout cas, j'ai repéré depuis longtemps, mais ce sont les blocages. Moi, j'en ai marre des plans nationaux. J'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment, alors qu'on est sur le spectacle vivant, où il y a des enfants qui vont travailler sur la danse, parce qu'il y a vivant sur le territoire, etc. Travailler danse, musique, on est plus sur d'autres domaines artistiques, mais sur un même territoire, il y a des richesses, il faut que tout le monde soit autour de la table, puisse travailler ensemble. On expérimente là à Cavaillon, on a enfin réussi à mettre en place ces fameux conseils locaux de pilotage ou de coordination des éducations artistiques. C'est prévu depuis 2015 dans les textes, mais la galère pour réussir à mettre ça en place, pour dépasser en fait les blocages. Donc, on a des ministères de tutelle, ministère de la culture, ministère de l'éducation nationale. On signe des plans, a priori tout le monde est d'accord pour le développement de l'éducation artistique, mais il n'y a aucun des deux ministères qui pense la même chose sur ce que ça devrait être. Voilà. Donc à partir de là, nous, quand ça redescend sur les territoires, eh ben, le système, j'ai pas peur d'utiliser le mammouth de l'éducation nationale, les mammouths du ministère de la culture, etc. Enfin, tout ça, ça fait qu'on a des blocages partout et que quand on est sur un territoire, eh ben, on a un mal fou à faire remonter ces choses-là, alors qu'il y a des pratiques. Moi, j'ai des collègues, et pas que dans des scènes nationales, même pas dans des scènes conventionnées. Moi, comme la première fois que j'ai géré une scène nationale, avant, j'étais sur deux théâtres dont ils sont devenus conventionnés, qu'ils ont été au moment où j'arrivais. Mais on a toujours développé des choses et j'ai plein de collègues dans tous les réseaux qui font un boulot magnifique. Simplement, c'est une bagarre quotidienne. Et la dernière chose que je dirais, c'est que là aussi, dans les dérives nationales, on va filer des centaines de milliers d'euros à des institutions qui font du bricolage sur l'éducation artistique, qui font une grande publicité là-dessus, pendant qu'on enlève des milliers d'euros à des gens qui sont sur le terrain, qui font un boulot de fond, par exemple, à la Friche Belle de Mai. Voilà. Donc au bout d'un moment, il y a un système qui est complètement atrophié et il y a, à mon sens aujourd'hui, on pourra, et je participe à plein de réseaux et plein de réunions, etc. Je pense qu'il va falloir que, pour moi, c'est vraiment au niveau des territoires, au niveau de la base, il va falloir qu'on réussisse à faire remonter ces choses-là. Moi, j'ai été auditionné par le Conseil d'éducation artistique, ça n'a rien donné. Alors, je ne dis pas que le témoignage que l'on a donné sur le territoire de Vitry-de-François a été hyper important et que ça doit être un modèle reproduit, mais entre il y a 15 ans et aujourd'hui, le secteur de l'éducation artistique n'a pas évolué, ou très peu, si ce n'est pas la mobilisation des réseaux comme le vôtre, des gens sur le terrain, etc., qui continuent à bricoler. Alors, il y a un peu d'argent supplémentaire qui est arrivé. Mais il y a plein de situations où il n'y a pas besoin de mettre de l'argent. Et je noterai après ça, mais un exemple dans ce conseil local qu'on a réussi à mettre en place grâce à un inspecteur d'éducation nationale de circonscription exemplaire, qui, et ça, c'est la première fois que je l'entends, enfin depuis des années, qui dit, mais c'est l'éducation nationale n'a pas vocation à piloter ce conseil. La prochaine fois, ça sera celui qui nous invitera qui le fera. C'est-à-dire de décider qu'à partir du moment où on parle d'éducation, c'est pas que l'éducation nationale. Et ça ne se passera que à l'école. Là, notre conseil, on va l'ouvrir à l'éducation populaire, etc. Enfin bref, de réussir à mettre en place autour, sur un territoire, des énergies, avec des gens qui sont convaincus de ça, parce qu'ils sont tous convaincus. Donc on a une responsabilité d'éducation, quelle qu'elle soit artistique, culturelle, politique ou autre. Voilà. Donc je pense vraiment qu'il y a des ressources Mais effectivement, ça a été dit, c'est vraiment un problème de pilotage politique, et surtout que les politiques n'ont pas, à mon sens en tout cas, nous fassent des grands plans. C'est toujours utile d'avoir, de donner une conduite, et qu'ils fassent confiance aussi aux territoires.
Anne-Sophie. C'est une démarche, en tout cas, celle d'enfance qui nous tient à cœur, qui est celle de moi.
Je crois que vous avez dit tout ce que je pouvais dire. Je ne vais pas leur rendre la présentation des uns et des autres, j'en suis désolée. Je suis directrice d'école, je suis à Paris, qui est une ville où il se passe beaucoup de choses culturellement. Avant d'être directrice, j'ai forcément été enseignante. Je peux vous dire que le jour où j'ai souhaité développer, à partager ma passion des arts vivants avec mes élèves, j'ai ramé comme une malade pour trouver les bons endroits, les bonnes formations, etc. Je suis sur la drape, j'ai cherché, et j'ai cherché comme une malade, je vous assure. Depuis, je ne sais pas, ça fait 7-8 ans, je me sens bien plus à l'aise, etc. J'ai travaillé en partenariat avec des artistes, et j'ai eu la chance de tomber sur des artistes avec lesquels on a, enfin la chance, où je me suis mise aussi dans la disposition de travailler en réel partenariat. Maintenant, directrice d'école, et je tombe de mon cocotier quand j'arrive dans une école comme l'année dernière à deux pas du 104 de la Vieille, des TD ou des enseignants ne savent pas ce que c'est que l'État SAPAC. Elle existe, il y a des budgets, elles n'ont jamais entendu parler. Je peux vous dire qu'elles ont montré ça, pas, mais je veux ça par là, il y a un vrai. Je pense que la base, là, tout en bas, j'ai l'impression que tous en haut, voilà, la base tout en bas, mais il faut. Enfin, on ne sait pas les choses, c'est un vrai souci. Au rectorat, à la culture, ils ont très bien identifié qui j'étais, je pense que vous aviez bien vu. Je sais qu'il y a une nouvelle commission, je sais qu'il y a une nouvelle. Je prends un risque, il y a une nouvelle cellule qui va se mettre en place, art et spectacle, je ne sais quoi. J'ai levé la main en disant ça m'intéresse, je veux bien en être. On m'a répondu vous n'êtes pas votre formateur, vous n'êtes pas conseiller pédagogique. Bon, ben, je fais quoi? J'attends d'être votre formateur. Non, ah voilà, donc je vais continuer à essayer comme ça. Mais c'est un vrai souci, la connaissance de la possibilité du fait que ça existe, que c'est possible à mettre en place. Voilà. Le partage.
De travailler aussi sur les collectivités, moi j'aimerais rebondir sur, en fait, sur le terme de généralisation, parce qu'on a bien compris en fait. Quand on est médiateur et que effectivement c'est inscrire l'enseignant dans un parcours, voilà, ou sur un contrat des œuvres, ce dont on a été quand même confronté aussi sur le dernier quinquennat, par rapport à la réforme des rythmes scolaires, beaucoup d'élus se sont dit tiens, super, il va y avoir de la pratique artistique, donc moi je ne fais pas connaître tout, dans le hors temps scolaire. Et on a dû se bagarrer aussi à un moment donné pour maintenir les crédits sur de la diffusion, donc sur un des piliers, parce que il y avait une volonté de mettre la main, de gratter dans le pot de miel pour transférer l'argent de la diffusion pour répondre à un moment donné aussi à la mise en place d'étapes.
Ouais.
Et quand on parle de généralisation, moi j'aimerais bien, donc forcément en fait. Quels sont les enjeux? Est-ce que c'est d'abord la généralisation, on est là sur la diffusion, c'est-à-dire faire en sorte que des enfants dans leur scolarité, dans le temps scolaire, qui est le temps de l'équité, bénéficient plus régulièrement d'une confrontation aux œuvres? Parce qu'on sait qu'être dans la généralisation de la pratique artistique, c'est pas évident, notamment avec les projets CAC, en plus sur des territoires qui s'élargissent. Bon, aujourd'hui, depuis janvier 2017, on était sur un territoire où il y avait 40 écoles, ça va s'élargir. Donc comment on fait pour généraliser de la pratique artistique? Est-ce que déjà sur des enjeux de réforme territoriale, faire en sorte que les enfants puissent déjà bénéficier régulièrement d'une confrontation aux œuvres, parce que c'est pas un des enjeux primordiaux déjà sur la généralisation?
Oui, je veux bien. Bien évidemment, ici, on agit sans partage la question des politiques publiques et nos collectifs et nos associations doivent garder cette vigilance extrême pour que les politiques soient à la hauteur de nos ambitions. En même temps que les politiques avancent, la vie continue et comme vous, monsieur, moi, je voudrais faire part d'un optimisme voire d'un enchantement et d'un émerveillement, y compris Anne-Sophie vis-à-vis... alors on va encore un petit peu parler d'école, puis après on va partir vraisemblablement sur les questions de l'éducation artistique hors l'école et la, la rencontre avec les œuvres, plutôt qu'on veut la sub-rencontre.
Oui.
Voilà, d'un optimisme. Voilà, et dire que les pré-acs sont des lieux forts de rencontre, de pratiques conjointes et de découverte de l'autre. Il y a d'autres espaces et on continue dans le monde associatif. Et le monde associatif rassemble, contamine. Moi, je crois beaucoup aux effets de contagion entre artistes, entre enseignants, de sorte que ça continue, ça se poursuit, ça se développe, et que effectivement partout existent de belles actions, y compris sur des effets de nombre. Ensuite, Mitea, c'était 696 classes. Alors, c'est pas la généralisation, mais c'est quand même beaucoup d'enfants. Et sans rien lâcher de la question, évidemment, de rencontre de qualité. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Claude, pour dire que le modèle des ateliers et de la formation, et que au moins les enseignants aient des moments de traversée et d'expérimentation avec les artistes, est fondamental. Qu'au moins à ce moment-là, quand dans les actions que nous conduisons, notamment en danse, en théâtre, on y arrive un petit peu mieux, mais la danse c'est émergent, donc c'est plus difficile, il ne peut y avoir la présence de l'artiste en pratique et au travail avec les enfants, on dit au moins dans la formation, pour qu'au moins se constitue une expérience commune pour que les enseignants eux-mêmes fassent l'expérience de ce qu'est un geste artistique, rencontre le corps sensible, rencontre la langue, rencontre la relation aux autres, et que effectivement ce qui peut être amené ensuite dans le giron de la classe soit de cette nature-ci. Je partage vraiment votre préoccupation quant au fait qu'on pourrait à nouveau ramener uniquement sur l'histoire des arts et uniquement sur la question du fait de dispenser des savoirs qui ne concernent pas les enfants et les adolescents, qui sont simplement une descente de savoir et qui ne sont pas de la construction de connaissances. Donc, voilà, je plaide en tout cas pour ce qui me concerne sur la question de la pratique partagée, au moins à hauteur d'adulte. Après, rien ne remplace le fait d'accueillir dans une relation triangulaire des enfants, un enseignant, un artiste, et d'être ensemble au travail pour faire des choses qu'on n'aurait jamais faites autrement. Mais ne lâchons rien sur la pratique. Disons-nous qu'il y a des espaces en attendant que les politiques veuillent bien nous entendre et s'organiser pour vivre cela.
Oui. Moi, je voudrais revenir à la fois sur la question de la formation qui vient d'être abordée et puis sur celle des territoires qui a été reprise par Didier tout à l'heure. Dans ce qu'on a essayé de mettre en place à l'issue de notre recherche-action en Vaucluse, on avait fait à la fin de la recherche-action des études de territoire menées sur des territoires Cavaillon, Grand Avignon, Apt, le Haut-Vaucluse, qui étaient différents dans leur temps. Donc une analyse de territoire pour voir comment on pourrait sur ces territoires mettre en place des projets de parcours d'éducation artistique et culturelle. Alors, maintenant, ces expérimentations commencent à l'issue de la recherche-action, en tirant bénéfice de ça. Qu'est-ce qu'on observe? Bien sûr, c'est souvent, la plupart du temps, une structure culturelle qui les lance, qui est à l'initiative de ça. Structure culturelle, c'est-à-dire un lieu, des médiateurs, des artistes en relation avec elles, etc. Et évidemment, ils travaillent avec l'éducation nationale, obligés. Donc dans l'éducation nationale, quels sont leurs interlocuteurs? Didier a parlé d'un inspecteur d'éducation nationale exceptionnel qui a tout de suite compris quel intérêt il pouvait avoir à travailler avec ces gens-là au sein d'un réseau. Et qui fait avancer les choses à son niveau. Mais
il est prudent et il dit essayons de faire réussir quelque chose sur mon territoire et puis après j'irai voir la tutelle pour qu'elles acceptent que ça se fasse ailleurs, pour qu'elles encouragent le fait que ça se fasse ailleurs. Concrètement, cette année, il y a eu une formation qui a débuté, enfin un projet de parcours qui a débuté sur le Haut-Vaucluse, à l'initiative d'une structure culturelle. On a obtenu que le rectorat, la DAAC, avec deux A, au rectorat, mette en place une formation pour les enseignants qui étaient impliqués, aussi bien premier degré que second degré, etc. Ils nous ont rencontrés pour qu'on étudie ensemble comment on pouvait concevoir cette formation. C'était une formation ciblée, n'est-ce pas ? On a discuté avec eux, on leur a dit ben, il faut qu'il y ait un temps aussi où les gens se rencontrent, se parlent, comme on a fait dans la recherche action, et voient ensemble quels sont leurs besoins, comment on peut y répondre, etc. Ah non, 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 réponse. Non, non, il faut, les enseignants en ont assez de ces formations, on les fait vivre, on leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Donc, il faut les nourrir. On va les nourrir. Et on a eu résultat, on a eu 2 jours de formation dans un lieu dédié où les gens étaient là et avaient du temps et pouvaient faire les choses ensemble, où tout était planifié, organisé de demi-heure en demi-heure. Alors certes, on a fait venir un artiste qui était en résidence dans le cadre du projet, mais un artiste pour qu'il travaille avec les enseignants sur leur propre rapport, leur propre pratique théâtrale, leur façon de faire des exercices, des choses comme ça. Mais on a eu une juxtaposition de choses, et est-ce qu'on peut dire que c'est une formation là ? On est dans formation continue, n'est-ce pas ? Alors, les enseignants qui étaient là, ben, ils étaient déjà impliqués dans le projet, ils voulaient qu'on parle du projet, de l'avancement du projet, de ce qu'on pouvait rectifier, etc., ce qu'on pouvait améliorer, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire pendant les 2 jours où ils étaient pourtant là pour ça. Ça, c'est la formation continue. Dernièrement, en début de semaine, pour travailler sur l'observation de ces projets, on a fait des entretiens avec les enseignants qui étaient impliqués là-dedans. Et moi-même, j'ai fait un entretien lundi. Que m'a dit l'enseignant ? Enseignant chevronné, qui va partir à la retraite l'année prochaine, qui fait des ateliers théâtre dans son collège depuis des années, qui a produit un document pédagogique lié à la résidence d'artistes. Il m'a dit, ça a très bien marché cette première année, on peut dire, parce qu'on a mis en place les enseignements pluridisciplinaires, les EPI, dans le cadre de la réforme du collège. Personne n'avait envie de le faire, personne ne savait comment le faire. Eh bien, là, à la faveur de ce projet, travail avec des élèves, préparation d'une résidence d'artistes qui avait lieu dans le collège, etc. Au début, on n'était que 2 à partager ça. En fin d'année, on était 10. Les enseignants, jeunes enseignants, sont venus petit à petit. C'est un collège qui est en réseau d'éducation prioritaire, population de la banlieue de Bolène, de Bolène est extrêmement difficile, économiquement, socialement. Ils sont venus et ça les intéresse et ils veulent continuer. Mais en formation initiale, ils n'ont rien eu. Ils ne savent pas faire. Et ils ne savent pas travailler en collectif et travailler en projet. Et moi, quand j'entends ça, j'étais dans l'équipe de projet de l'UFM d'Aix-Marseille il y a 25 ans. On avait travaillé comme des fous pour que ça soit mis en place. On est 25 ans après. Mais pourquoi est-ce qu'on en est là ? À cause des responsables politiques qui lancent des projets. C'est pour ça les politiques publiques, moi je veux bien. On les lance, on fait des grandes annonces, on met des moyens. Et 2 ans après, voir le plan Hollande-Tasca, etc., il y a une difficulté politique qui s'annonce, on bloque tout. Les UFM, ça a été pareil. Pourquoi est-ce qu'on en est là dans les UFM ? Alors, en train de dire, il faut intervenir dans la formation initiale, il faut intervenir dans la formation, je veux bien, mais attention. Je crois qu'il faut partir des territoires, des gens qui travaillent sur le terrain, qui font des choses, et qui convainquent de leur intérêt les politiques locaux qui se disent « Oh, c'est bien ce qui se fait là, on va aider, on va mettre un peu de moyens, on va mettre des sous pour que les élèves soient transportés, etc. » Et petit à petit, comme ça, on a sur le terrain un réseau qui se construit et qui récupère ce que disait Didier, c'est-à-dire beaucoup de choses qui se font et qui se font très bien. Mais j'ajouterai une dernière chose, je laisse la parole à nous. Expérimenter, comme on veut le faire, mutualiser, c'est très bien, mais on a dit aussi observer, analyser. Parce que je crois que si on veut qu'à un niveau supérieur, qu'on parle de généralisation ou pas, il y ait des choses qui soient prises en compte, il faut qu'on puisse produire des analyses de ce qu'on fait en disant, comme on l'avait fait dans la recherche-action, là il y a les freins, là il y a les obstacles, travaillons là-dessus. On a essayé de travailler de cette façon-là, là ça marche pas, pourquoi, etc. Et là peut-être, il y aura des réponses.
Merci pour cette expérience. Jean-Pierre,
tu voulais dire un mot? J'avais envie d'intervenir dans ce débat donc, à partir de mon point de vue, qui est donc celui du cinéma. Le projet minoritaire, pas mal du tout, c'est en même temps de ça, c'est un partage de quelque chose. Et que ce que je peux dire, je le dis à partir de l'expérience plus concrète que j'ai vécue les dernières années de mon activité, à travers l'étage d'une salle de cinéma dans le quartier nord de Marseille, qui s'appelle Alain Noir, où toute une série de démarches se croisaient, qui m'ont amené à participer à la création du dispositif École de cinéma au niveau national, de l'association Enfants de cinéma, et de la création, non pas des PREAC, mais de ce qui a précédé les PREAC, qui sont les pôles de ressources créés par le Centre national du cinéma. Voilà, c'est un peu de là que je parle. Il me semble que l'expérience du cinéma, moi, elle me fait réfléchir par rapport à toutes ces questions-là dans deux directions. La première, et là, je dis là précisément par rapport à une discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Robin, qui souhaite de développer de son côté, c'est cette idée qu'avec la question du cinéma, on est confronté depuis toujours et de façon très forte dans le début du développement des dispositifs, je rappelle le tour fois deux, avec la question du marché. On est confronté à la question industrielle, on est confronté au marché. Je pense qu'aujourd'hui, cette question-là, il faut la regarder en face, parce que d'une certaine façon, on peut arriver à faire que l'éducation artistique devienne la vitrine de quelque chose d'autre qui est effectivement le marché des loisirs. Et je pense qu'il faut être très attentif à ce qui se joue. Je viens de découvrir que ce qui est en train de submerger un peu la question du théâtre, je peux vous dire que sur la question du cinéma, on l'a toujours vu. Pour être très concret, je ne confonds pas le dispositif école et cinéma et le dispositif collège et cinéma. Pourquoi ? L'un a été construit par les exploitants pour rattraper une baisse de fréquentation violente qui est arrivée à un moment. Dans les salles de cinéma, on a embarqué les collèges dans cette histoire-là. Dans des situations pédagogiques qui n'ont pas été réfléchies, la question des collèges est posée à partir d'une situation pédagogique différente. Et je pense qu'il faut essayer de regarder comment ces mécanismes de la marchandisation, ces mécanismes qui nous envahissent et qui sont, à mon avis, extrêmement puissants dans toute la question de notre rapport à la culture et de notre rapport à l'art, je crois que le cinéma, pour ça, quelque part, a une petite expérience qui peut peut-être être partagée par vous. Et la deuxième chose, moi, le cinéma, il me pose une question, elle est sortie un peu tout à l'heure. J'avoue que moi, les trois piliers, j'ai du mal. Parce qu'il y en a deux qui, à mon avis, sont un. Vouloir opposer la rencontre de l'œuvre et la pratique, c'est se tromper. Pour moi, c'est la même expérience. Le plateau et la scène. Quand je suis derrière une caméra, quand je regarde un métro, je fais un cadre, je regarde. Je veux dire que cette idée que l'art est une expérience et que cette expérience serait partagée en petits morceaux, je pense qu'elle est fausse. Et que quelque part, il faut arriver à se rendre compte que les choses se tissent, que les choses s'échangent, et qu'à force de vouloir les séparer, ces deux démarches, et d'imaginer qu'il y a une autonomie d'un côté, une autonomie de l'autre, on arrive à la généralisation parce qu'on montre des films, lesquels. Donc pour moi la question c'est quelle est la nature de l'expérience artistique qui est au cœur de la situation pédagogique proposée. Et ces situations pédagogiques, elles sont extrêmement diverses. On est à la fois en train de monter sur scène, on regarde, on écoute, on parle, on fait des images, et que c'est cette idée-là qui fait que, moi, pour moi, je suis pour la destruction des peupliers. Il y en a que deux. Il y a la communauté. Il y a l'expérience qui doit être au cœur des situations pédagogiques. Quelle est la finalité de ces situations pédagogiques? Effectivement, là, il faut réfléchir vers où on va, essayer en particulier de lutter contre tout ce qui est la marchandisation qui envahit l'imaginaire des enfants, et pas que des enfants, et d'une certaine façon, essayer de voir comment ces situations pédagogiques qui doivent être basées d'abord sur des expériences artistiques, et c'est en ce sens-là que ce ne sont pas des enseignements, effectivement, il faut les construire dans une intercompétence entre l'éducateur, l'animateur et l'artiste. Et que ce n'est pas forcément l'artiste qui sait ce qu'il faut faire, ou l'éducateur qui sait ce qu'il faut faire. Moi, j'avoue que, si vous voulez, j'ai vécu des corrections du bac cinéma de façon extraordinairement ahurissante de ce point de vue-là. Qui est l'artiste, qui est... Je crois que la question de revenir sur qu'est-ce qu'on appelle l'expérience artistique et comment elle est au cœur des situations pédagogiques auxquelles on pense dans le cadre de l'éducation artistique, culturelle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, avec l'éducation artistique, il me semble qu'on a besoin de retravailler très fortement cette interpénétration des différentes démarches. Et je ne les sépare pas et je pense que école et cinéma est intéressant, je le défends comme une expérience d'éducation artistique, même s'il y a 2 millions d'élèves aujourd'hui, il y a 10% des élèves du primaire qui vont à école et cinéma. C'est pas rien, c'est massif, c'est énorme. Eh bien, c'est pas pour ça que c'est négatif. Et il y a moins d'élèves à collège du cinéma parce que petit à petit, ça s'est dégonflé. Pourquoi? C'est que là, le catalogue qui est proposé de l'école du cinéma n'a rien à voir avec la proposition de le collège du cinéma. C'est un catalogue sur les œuvres du cinéma. Il y en a trois, c'est un parcours pris dans une situation réfléchie et avec l'édition et un travail éditorial d'accompagnement qui est, d'une certaine façon, avec une grande explication. Voilà, c'était un peu les deux points que j'avais envie. C'est de ce point de vue-là que moi je rentre dans ce débat et que j'ai rejoint le collectif que je travaille avec vous.
Alors, merci pour ces mots. Je vois l'heure qui tourne en même temps, hein, puisqu'on a dit qu'on arrêtait à midi et demi. Je voudrais, à la fois, on entend voilà, des pratiques, des expériences, du débat, la question de l'expérience esthétique ramenée par Jean-Pierre. Et peut-être je vais me retourner vers Robin, pour à la fois un propos sur ce qui s'est dit là, mais aussi peut-être le regard vu de cette posture du Haut Conseil et du coup la tournée vers l'avenir et ses enjeux. Voilà.
Voilà, bon, je suis présent avec vous pour entendre le plus possible parce que il est nécessaire de parler d'aujourd'hui. De ne pas être ni pessimiste ni optimiste, mais combatif. Et c'est parce que nous sommes combatifs et qu'on a nommé les territoires, ce qui se passe réellement sur le terrain, des gens passionnés qui, par leur passion, entraînent d'autres à se fédérer, à travailler ensemble. Et ça ne se passe que par la disposition des uns et des autres et pas par les dispositifs qui sont mis en place pour cela. Donc cette disposition, c'est elle qui, quand j'avais 3 ans, m'a fait connaître Madame Martin, qui nous faisait agencer des petites cases africaines à la première année de l'école primaire. C'est celle-là qui avait aussi animé Monsieur Richard, qui m'a fait dire les pauvres gens de Victor Hugo à voix haute, en me faisant comprendre que la métrique de l'alexandrin, c'était pas la même chose que la prose, que le vers, c'était pas la prose, et qu'il y avait deux choses dans le monde. Il y a le bavardage et la parole. Il y a la gesticulation et il y a le geste, il y a la concentration et il y a l'excitation. Alors quand j'ai compris ça, j'étais tout petit, c'était les fondamentaux de l'école que je voulais comprendre. Et que l'école n'était pas seulement lire, écrire et compter, mais lire, dire, écrire et compter. Et que la beauté de la langue, transmise par un enseignant qui travaillait avec des artistes, mais qui n'était pas dans des dispositifs aucun. C'était juste la passion de quoi ? De l'autre, qui est celui qui achève la pensée de celui qui est en train de dire, au fond. Hein ? Et que lorsque l'on dit, ça sous-entend que l'autre, à tout moment, peut prendre la parole, ou bien par son silence, il accepte l'idée qu'il est augmenté par l'auteur qui parle. Alors, quand on a les mots en tant qu'auteur, éventuellement
ça va. Si on ne les a pas, on va les puiser chez ce qu'on appelle les auteurs, qui sont ceux qui nous augmentent. Donc ce travail-là de l'image que tu viens de nommer, c'est l'expérience absolue, esthétique, artistique, de cette pratique, ne serait-ce que de la langue, qui fait que lorsque l'on parle, nous conversons, nous partageons, et nous sommes dans une expérience de la pensée, de la formulation, de la syntaxe, de la phonétique, de l'ensemble, et de la métrique, si on passe avec des mots qui ne sont pas appelés à être ensemble, inconnus les uns des autres, qui sont la poésie de l'image et du langage. Donc, il y a déjà une reconstruction peut-être symbolique, en fait, de ce que nous vivons les uns avec les autres, dans des mots séparés, cloisonnés. Voilà notre monde, donc notre passion, notre désir d'être ici, à Avignon, dans ce lieu fondamental du partenariat, où les poètes, les auteurs, les artistes, les politiques se sont mis ensemble pour construire ce qu'on a appelé les politiques culturelles ensuite, les dispositifs qu'on a mis en place, qui comme le serpent des mers avance, recule, etc. Mais rien ne remplacera ce que vous êtes aujourd'hui, et c'est ce que je suis venu renforcer en vous parlant. Il faut que nous communiquions aussi de ce que nous avons vécu, d'être ensemble, les uns et les autres, à la position dans laquelle nous sommes. Donc ce qui se passe aujourd'hui, le présent, toujours la photographie, nous avons une ministre de la Culture qui ne cesse de proclamer une fois de plus, rappelons que ça a été le cas de la ministre précédente et même du président de la République précédente, qui a fixé comme un cap absolu, prioritaire, la jeunesse, l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire tous les mots que nous avons, qui sont en fait raptés dans un cadre politique, qui peuvent devenir des dispositifs, mais aucunement des dispositions. On n'encourage évidemment pas, au bout de la ligne, la formation dans les ESPE, on n'encourage pas la pratique de l'enseignant. L'enseignant n'est pas le premier lecteur de sa classe, le premier diseur de sa classe, il est souvent divisé par la peur, par la rencontre. Très jeune enseignant balancé dans des quartiers prioritaires où il va confondre autorité, dont nous parlons, et discipline, à laquelle il n'a aucune formation. Et le foyer de l'autorité, comme je le disais, est chez l'élève ou chez celui qui se sent augmenté. Donc, comme il n'a pas eu de formation à cela, au départ, c'est fini. Donc, on sait très bien qu'il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui à se tenter, c'est-à-dire dans le ministère précédent et dans le mandat précédent du président de la République, d'affirmer cela. Bien au contraire, et là je vais peut-être vous choquer, bien au contraire, je reprends ce que me disait Jean-Pierre à l'instant. Aujourd'hui, qu'en est-il? Dans les théâtres nationaux, vous le savez, nous avons eu une réunion il y a quelques jours pour parler de nos maisons, scène nationale, lieu dramatique, etc. La décentralisation est née de cette pensée que je viens d'évoquer, hein. Le partage avec tous, la possibilité à chacun d'être auteur de sa parole après le moment névralgique de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les industries de programmes télévisuels sont passées par là, les industries en général de massification de la pensée qui vont nuire à la singularité de cet enfant ou de cet adulte que nous tentons d'être, que nous nous dit pensant par nous-mêmes, pensé par soi, a fait son chemin. Qu'en est-il aujourd'hui? Une ministre, Françoise Nyssen, est à la tête de ce gouvernement. Son budget va être érodé. Va être érodé de 50 millions d'euros cette année, dont on dit que c'est un argent qui était dans des niches non utilisées, qui était peut-être le budget de fonctionnement du ministère de la Culture, qui était peut-être également dans des rapports au patrimoine, mais qui ne touchera en rien la question ni artistique, ni culturelle, ni de l'éducation, ni de la formation, ni du spectacle vivant, ni de la création, de rien. Bon, enfin, il y avait 50 millions qui se promenaient. On aurait bien aimé redistribuer, car la tâche du service public, c'est de redistribuer les fonds aux actions et en termes de concitoyens. Bon, donc voilà le temps budgétaire. Le temps 18, il est de toute façon promu à une baisse de crédit. Les discussions avec Bercy vont se passer dans quelques jours. En ce moment même, le cabinet, je suis un petit peu en relation avec cette question-là aujourd'hui, puisqu'il y a demain même une réunion, un déjeuner avec les ministres Blanquer et Françoise Nyssen, auquel je ne participe pas, parce que je joue à 14h30. J'ai envoyé une note, je peux vous l'envoyer, mais j'apprendrai aussi si elle a été utile et distribuée, parce que les balises sont un peu affolées, parce que est-ce qu'on distribue, cette lettre de Robert Ricci, donc c'est important, mais enfin, moi je suis au cœur de la chose. Donc, le budget va être érodé, en 18 c'est certain, et la suite également. Aujourd'hui, les promoteurs privés sont en train d'acheter des théâtres, acheter des zéniths, des grandes salles, faire par ce qu'on appelle une délégation de service public la mainmise des OPA sur des lieux qui étaient des lieux publics qui deviendront des lieux privés. On est en train donc d'acheter des murs, c'est-à-dire la question du spectacle vivant et dans les industries culturelles est devenue
est rentré dans le marché. Le budget de la culture est gigantesque, au fond, dans ses produits et dans ses retombées économiques, publiques et sociales, et privées, bien sûr. Par ailleurs, on dit que nos maisons, ou en tout cas nos actions de service public, sont à bout de souffle. C'est ce qui est tenu comme rapport. Les scènes nationales, les centres dramatiques sont à bout de souffle. On nous demande cependant de prélever 1 euro, une préconisation d'un projet qui a été proposé par René Bonnel, qui a proposé au ministère de la Culture une proposition, qui est de retrancher dans nos budgets 1 euro sur les entrées de nos publics pour aller dans une caisse, un peu comme le CSC, pour permettre aux théâtres privés de survivre. Donc nous sommes à bout de souffle, mais il va falloir permettre aux théâtres privés de survivre. Quel est le théâtre privé? Vous savez sans doute, 99% des théâtres sont parisiens, il y en a un à Lyon. Donc on est en pleine centralisation pour que les théâtres privés parisiens, avec le service public de la décentralisation, puissent, alors que l'ambulance devrait donc soutenir l'hôpital, je ne sais pas, le malade, on ne sait pas. Alors, là, la préconisation est là. Bercy a déjà un peu tendu vers cela. Ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Mais notre ministre n'a pas encore lu, Françoise Nyssen, le rapport de René Bonnel. À l'autre bout de la chaîne, dans le conseil artistique, donc le Haut Conseil éducation artistique, je siège à côté de qui? De la personne qui est la responsable de ces marchés, c'est-à-dire en gros Fimalac, et donc Éléonore, la Drède d'Acharrière, peut-être vous connaissez Marc la Drède d'Acharrière, qui est celui qui, il y a quelque temps, disait « Je suis le bras séculier, nous sommes le bras séculier du ministère de la Culture », article du Monde, du mois de février. Donc le privé est en train, d'un côté, d'acheter des murs, et d'autre côté, et j'en viens à la question double de Jean-Pierre, du symbolique, donc qu'est-ce que c'est qu'être en scène, qu'est-ce que c'est que partager avec un public. Et le marché de tout ce travail-là, de Marc la Drède d'Acharrière, c'est une association qui s'appelle Culture et Diversité, qui fait par ailleurs un travail tout à fait intéressant, mais on voit que le privé est rentré, enfin, pas tellement, pas de faire dire ça, mais je préfère dire ça pour être généreux et prêter crédit.
Bien.
Il peut y avoir des emplois fictifs, mais en même temps, je me dis qu'il y a peut-être du bon, j'en sais rien, parce qu'il y a quand même des prestataires.
Il y a des méthodologies d'intervention.
Ce qui est sûr, c'est que la méthodologie, c'est quoi? C'est qu'à l'autre bout de la chaîne, on prépare le cerveau de nos enfants dans l'éducation nationale en ayant rentré une circulaire nouvelle de la rentrée de l'improvisation et du stand-up dans les écoles, pour que ce soit une généralisation, celle-là, qui permette à nos enfants d'exprimer leur personnalité. L'excitation et la concentration, vous voyez qu'on est à un endroit, à partir de bavardage et la parole, on n'est pas tout à fait la gesticulation et le geste, on n'est pas tout à fait à l'endroit
direct.
Mais en tout cas, et ça ne me dérange pas, Jamel Debbouze, qui peut avoir toutes les qualités qu'il a en tant qu'artiste, a ce marché gigantesque de ses maisons de production, Fimalac, tout ça en connivence avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, donc à l'intérieur même du Haut Conseil de l'Éducation culturelle. Et à l'autre bout de la chaîne, on achète des théâtres pour préparer les petits-enfants à devenir des artistes qui sont du stand-up, les publics à se dire les maisons de la culture qui sont devenues centres dramatiques sont bien moins remplies quand même, quand ils parlent de poésie, quand ils parlent d'auteurs qui augmentent, du symbolique, du rêve, du Maeterlinck ou bien du Shakespeare. Finalement, ça a fait ses preuves. Regardez que M. Michalik est fort à remplir des zéniths à 3000 ou à 4000 personnes. Donc pourquoi le public n'accepterait pas cette idée qu'on puisse rompre, c'est le cas, c'est ce mur de Berlin, entre privé et public, et puis qu'on achète un peu plus de murs, et puis qu'on ait du public qui, enfin, est-ce qu'il veut du divertissement fort, de stand-up dont on a besoin. Donc c'est ça dont je veux vous parler maintenant. C'est le temps présent. Donc le moment où on n'est plus tellement au pessimisme, à l'optimisme, il est au combat médiatique, au combat entre nous, de poursuivre là où nous sommes, avec l'enseignant, avec sa municipalité, son maire, son conseil général, son conseil régional, si on peut à tout moment de dire « moi je suis enseignant, voilà, j'ai envie de transmettre la langue dans mon école, j'ai envie qu'on lise et qu'on apprenne par cœur les poèmes de Victor Hugo ou de Charlotte Delbault, et qu'on ait envie de poésie dans ma classe, et quand je fais de l'histoire ou de la géographie, j'ai envie qu'on lise à voix haute tout d'un coup ce que l'on dit, qu'on se situe géographiquement, corporellement dans un espace, etc. Donc le boulot sur le terrain, il ne peut se faire que parler, encore une fois, les dispositions des enseignants, des artistes, des éducateurs, de toute la chaîne dans laquelle nous sommes. Donc, j'avais envie de vous dire cette photographie de ce qui se passe en ce moment. Demain, il y a le conseil qui se réunit, ma lettre ne sera pas lue, on ne parlera pas de ce que je viens de dire là, il y aura une honneur de la charrière qui vendra un peu plus son dispositif de ramification du privé dans l'éducation nationale, et notre ministre ne sera pas au courant de ce que je suis en train de dire là, ne sait pas, elle vient du livre, exactement ce que vous faites et ce que nous faisons. L'éducation artistique et culturelle est confondue. Quand on parle d'art, on parle de la chose, c'est-à-dire la pratique, l'expérience, y compris celle du spectateur que je viens de nommer. Mais la chose, quand on parle de culture, on parle de rapport à la chose. C'est pas pareil. Le rapport à la chose, c'est autrement. Comme tu disais tout à l'heure, mettre un petit gilet bleu et puis défiler devant la Joconde, c'est culturel si on veut, c'est le rapport à celui qui a peint pour que l'œil fasse le tableau. Mais l'œil, il ne fait pas le tableau. On est deux sur devant, on a un petit gilet, mais on se balade et on va le comptabiliser tout ça et on dira qu'il y a 100% des enfants qui font de l'éducation artistique et culturelle. C'est pas vrai. Ils sont dans un rapport culturel, c'est-à-dire du rapport à la chose, dans tous les domaines. Regardez la télévision, c'est le rapport à la chose. Écouter un débat, c'est le rapport. Mais débattre, parler, ressentir, exprimer et dire ce que l'on est ensuite, c'est devenir auteur de sa parole, ça touche à la question de la citoyenneté et de la démocratie, et les Grecs sont derrière, sauf que de ça, aujourd'hui, dans ce temps-té, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Dans les corps inspecteurs de l'éducation nationale, on ne veut pas de l'expérience. On veut en effet l'éducation à l'art, et moi je pense qu'elle est nécessaire absolument, il ne faut pas l'opposer, ça serait une erreur. Moi je n'oppose pas, mais qu'on ne confonde pas éducation artistique et éducation à l'art, c'est pas pareil. On va étudier un tableau, on va apprendre les nages au cours des siècles, et qu'il y a la brasse qui se fait comme ça, et puis, mais c'est pas aller à la piscine. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est de la natation, c'est de l'expérience, c'est ça. Alors, on ne l'organisera pas du point de vue général. Ils ne sont pas prêts. Notre ministre ne sait pas de quoi on parle. Nous parlons quand nous disons ça. On va dire qu'il y a 100% des enfants qui font de l'éducation artistique et culturelle. Puisque à peu près 98% sont allés dans le musée. Fait, voilà. Donc, vous voyez où nous sommes dans les langages, dans la confusion. Et ça, ça fait 40 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des moments absolument clairs. La pratique, l'atelier, c'était clair, les classes à Pâques, tout ce qu'on veut, des dispositifs qui ont répondu aux dispositions. Aujourd'hui, tout ça s'est cassé. On a fait l'objet, on l'a rempli, on a acheté ce qu'il y avait dedans avec l'objet. C'est obsolète, on passe à autre chose. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est bah, nous sommes forts, parce que nous continuons à être passionnés, être ici à 10h du matin, ils ne sont pas des mots, c'est construire avec ce qui est, qu'il faut combattre, répétons ce que nous disons, alimentons la réflexion objectivement. Il ne s'agit pas de faire de la délation, mais le privé, ça n'est pas le public. Tout ce que nous avons construit, en tout cas l'éducation de la République, l'école de la République, elle est publique. On ne peut pas, à ce point, faire une porosité entre les éléments marchands qui rentrent dans l'école de cette façon-là. Et c'est rentré à l'endroit des industries culturelles, c'est-à-dire les 50 ans que nous venons de vivre. On l'a très bien compris au début, c'était déjà avant, et maintenant, eh ben, ce sont ceux qui rapportent. La culture rapporte, et même ce qui rapporte, c'est l'éducation et la formation qui rapportent beaucoup. Et on va nous dire que nous ne sommes pas capables de le faire bien, voilà, dans nos maisons. Et donc on va retrancher un peu dessous,
c'est pour que d'autres le fassent.
Pour que d'autres le fassent bien, parce qu'ils ont réussi à s'infiltrer très bien aux bons endroits. Pourquoi ? Eh bien, pour aujourd'hui, nous avons choisi notre président de la République, M. Macron, bien, c'est un libéral et qui favorisera le privé, c'est très très clair. Ne vous attendez pas à ce qu'on favorise davantage le public. C'est ça que j'avais envie de vous dire.
Robin, c'est un magnifique. Précisez-nous comment on réagit et à vos propos de l'imagination, de vous demander à la même chose, vous imaginez.
Oui.
Donc, les scénarios, comment il réagit à ces concernant ça.
Alors, je ne veux pas trahir la pensée de mes camarades directrices et directeurs. Il y a eu une forme de malentente, on va dire, réciproque, qui a permis de purger un tout petit peu les tensions montantes. Ça a donc permis de remonter. La ministre s'est exprimée avec les députés à ce sujet hier. Il y a eu une tension avec les directeurs de nation. Simplement, parce qu'on a remis en cause au moment de la décentralisation cette question de l'origine de nos centres dramatiques. Du service public, tout d'un coup, en faisant rentrer cette idée du privé.
y a une forme d'injonction qui nous est donnée, de dire il va falloir que vous travailliez en poids avec le privé. Alors, nous avons envie de savoir quelle est la position et la raison pour laquelle il faut que nous travaillions. Donc, il faut que simplement qu'on ait une lettre de maintenant de Françoise Nyssen, dont on attend clairement la réponse. Pourquoi devons-nous sauver le théâtre parisien? Il faut qu'on nous l'explique. Après, nous verrons si nous pouvons. Alors, c'est une préconisation du rapport Bonnel. Maintenant, c'est de dire le rapport Bonnel, merci, au revoir, ça aura peut-être servi à ça. La taxe, parataxe, dont je parlais d'un mot, merci, au revoir. Nous, nous voulons défendre un service public, nous voulons... ça va permettre peut-être cela. En tout cas, ça n'est pas conflictuel avec notre hiérarchie, et surtout pas avec la DGCA, c'est-à-dire une dame qui s'appelle Régine Chandot, qui est notre directrice du spectacle vivant, du théâtre, n'est pas là pour être infusible. C'est pas ça le principe, vous voyez, ce serait malhonnête et les directeurs ne souhaitent absolument pas ça. Mais nous voulons simplement dialoguer en amont pour dire maintenant qu'est-ce qui a fait que vous ayez choisi l'improvisation stand-up dans l'éducation nationale. Vous devez rendre compte à nos concitoyens. Vous faites entrer dans l'école un élément sur lequel on n'a pas discuté les uns et les autres. Et qu'est-ce que c'est que s'agiter? Ou est-ce que peut-être que je me trompe personnellement pour un métier ou pas pour du stand-up? Peut-être que c'est pas d'agitation, peut-être que c'est de la concentration et de l'invention de l'expérience personnelle. Sauf qu'a priori, j'ai remarqué, j'ai vécu que si tout ça s'était chargé de l'industrie de programme, de l'audiovisuel, etc., que ça fait quand même des enfants qui s'excitent beaucoup. Et il y a parmi eux ceux qui sont les plus timides, qui en fait parfois. Mais en même temps, il y a aussi ceux qui disent bah, attends, moi c'est pas pour moi, je serai jamais, je n'ai pas envie d'être sur une scène en chanson.
Et ça crée autre parenthèse, je vais vous conseiller, parce que j'ai travaillé sur un programme d'éducation artistique à la chapelle, j'ai dans un collège d'éducation pédagogique. Et donc, il y avait de la diversité, il y avait des ateliers, etc. J'ai suivi un peu l'affaire, et puis j'ai vu ce qui se passait. Cette excitation, elle est dans le résultat produit par les élèves, encadré par toute l'université. Cette excitation qui est au contraire précisément de tout ce mouvement qui fait que les savoirs deviennent connaissances, comme vous disiez tout à l'heure. En fait, en réalité, il y a un arbitre au milieu, ils font un match d'improvisation qui les excite un maximum. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent, ils sont épuisés et sans savoir finir. Donc, voilà ce que
je
veux
dire. Moi, je vais te dire une chose, pardonnez-moi, je termine après. Je vais te dire une chose. Je veux dire que tout procédé, à condition qu'il arrive à nos fins, sera bon. C'est-à-dire que si l'enfant se dit, moi, ma seule culture télévisuelle ou autre, c'est ces gens-là que j'ai envie d'imiter parce que c'est eux qui sont formidables, il va peut-être arriver derrière cela à du désir du plateau. Donc, notre travail, ne renonçons pas à l'exigence, à la qualité, à la poésie. Et moi, je vois des enfants à qui je parle régulièrement, je l'ai fait dans le collège en scène de Mathieu il y a deux jours, des gamins qui sont jamais venus au théâtre. Je leur ai raconté Proust, Rimbaud, Paul Valéry. Ils m'ont demandé à la fin, oh, c'est bien ce que vous avez écrit. Ils m'ont dit, oh là là, mais nous, donc, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire tout d'un coup, ceux qui sont les trois, on spécule sur leur attention, ces enfants-là. C'est le marché aujourd'hui du commerce et des industries de programme, médiatique. Eh bien, ces enfants-là, tu les mets en rapport, à condition que nous soyons encore plus solides nous-mêmes, et tu y as une porosité merveilleuse.
C'est avec les mêmes enfants, dans la deuxième partie de l'année, on a fait l'éducation artistique.
Voilà. Et donc, tentons de dire que même si Jamel Debbouze a réussi à avoir ce marché, mais il faut que nous ne nous en soyons pas dupes, désormais. Voilà. On analyse quand même qu'au conseil. Fimalac, à l'arrivée, achat des murs, Fimalac, vente des places, vente en ligne privée, vous savez ce que c'est la vente en ligne aujourd'hui, c'est tout un marché également. Donc tout ça s'est fait pour que les vedettes de ce type de programme soient dans les théâtres, pourquoi pas dans les autres, puisqu'on en rapporte moins d'argent que nous. Donc voilà, on est informés maintenant.
Alors merci, bon, je vais interrompre.
Je voudrais simplement profiter parce qu'on avait fait une expérience culturelle il y a 6 ans à Québec. Pour expliquer comment ça a fonctionné, ça rejoint vraiment ce que dit Robin. On a monté, nous, un club d'entreprise partenaire, qu'on appelle la compagnie des mécènes, mais sur lequel on a réussi à faire en sorte que les entreprises soutiennent le projet et non pas l'événementiel, etc. La plus grosse boîte de Cavaillon, je vais la citer, c'est Idée Logistique, qui est mécène de culture et diversité. Nous a envoyé paître quand je suis allé les rencontrer en disant on est à Cavaillon par hasard, on n'a rien à faire, etc. Ils sont revenus au théâtre, au loin la salle, culture et diversité, pour faire ces matchs d'un peu. Donc la première fois, une location de salle, on va regarder. Nous qui travaillons depuis des années dans la mise en place d'ateliers de pratique avec des artistes, etc., quand on a vu ce qui se passait, c'est-à-dire effectivement, c'est un show.
Il y a un ring, il y a un arbitre, il n'y a aucune préparation des jeunes qui vont sur scène, ça fait monter, etc. On pourrait imaginer qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer, effectivement. Et puis, en face, il y a effectivement l'excitation. On met des notes comme à l'école. Voilà, il y a des gagnants, des vainqueurs, etc. Ça gueule en permanence. On fait gueuler. Et nous, on l'a vécu une fois. Et donc, on a réinterpellé les gens en disant, voilà... Nous, par contre, ça vient casser complètement le système, parce que parallèlement à ça, la culture et l'université arrivent, en profitant d'être venus une fois à l'Assemblée nationale, ils arrivent et ils financent à hauteur de 4-5 000 euros des ateliers d'impro dans les collèges avec lesquels on bossait. C'est-à-dire que le travail de fond que nous nous faisions, ce travail-là, oui, mais on a de l'argent pour le faire, vos projets, vous nous demandez éventuellement une participation. Donc, ça allait comme ça. On a viré, on a dit non, de toute façon, on n'a plus les moyens nous, de nous accueillir, mais surtout, c'est contraire à ce que l'on fait. On a essayé de leur proposer, de dire, voilà, sur les matchs d'impro, bon, c'est pas notre truc du tout, mais pourquoi à ce moment-là, on pourrait peut-être, avec les groupes qui sont là, on pourrait imaginer un travail de pratique théâtrale autour de la question de l'espace, du corps et de la voix. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on les voyait sur scène, il n'y avait aucune notion de ça. Bien sûr, ça n'a intéressé personne. Donc on a pris la décision de les virer, mais je peux vous dire que c'est un combat de tous les jours sur chaque territoire.
Merci bien à vous tous. On va interrompre, je sais qu'on frustre, il y avait encore quelques questions, mais le débat continuera ailleurs. Merci de votre participation. Merci à Scène d'enfance à Cité-Je France. Merci Robin d'avoir un dernier mot corroboratif.
Pour chercher sur Internet.
L'adresse du blog, c'est
l'éducation par là.
C'est pour Léa.
Pour Léa.